autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour découvrir qui sera le nouveau lauréat de la lunette astronomique offerte par SSVI et RFI en partenariat avec la revue web L'Astronomie Afrique. Un peu de patience, il vous sera révélé dans notre chronique Ciel d'Afrique, notre éphéméride Ciel d'Afrique. En fin d'émission, un indice géographique tout de même à son intention et à celle de ses élèves qu'on salue de tout cœur et qui nous écoutent depuis Conakry, en Guinée, sur 89 FM. Mais avant d'observer, voire de tutoyer les étoiles, nous allons d'abord nous arrêter sur le plancher des vaches folles ou pas pour nous poser d'étranges questions sur la folie et les folies animales. C'est le titre de l'essai à nul autre pareil de notre invité, l'éthologue Michel Kreutzer, pionnier de la zoopsychiatrie, qui nous met un peu la tête à l'envers autour de la question « La folie est-elle le propre de l'homme ?» et jusqu'où les autres animaux peuvent-ils eux aussi être naturellement fous ou le devenir en nous fréquentant un peu trop ? Bienvenue pour nous interroger sur toutes nos folies humaines et animales, ou les deux à la fois, comme dans cet extrait juste pour rire du dessin animé Tom et Jerry.
Le chien fou attaque! Le chien fou remet ça!
Eh oui, un temps de chien sévissait par cet été caniculaire, et ce n'était pas le seul. Un chien fantôme et féroce était son odieux complice.
Je pense que c'était un chien de race.
J'irais plutôt un bâtard.
En tout cas, il a le poil ras.
Moi, je dirais plutôt le poil long.
Moi, je dirais frisé comme un caniche. Une chose est sûre, il a au moins deux yeux.
Il est complètement ridicule, ton signalement!
Et là, les oreilles pointues. Et puis des grands yeux tout cruels et tout injectés de sang.
Le gros problème, c'est que personne n'a eu le temps de le voir. Il surgit dans l'ombre sans crier gare.
C'est pour cette raison que vous ne devriez pas vous emmêler. Croyez-moi, cette affaire est trop dangereuse.
Dangereux peut-être de s'attaquer à la folie, ou plutôt aux folies animales, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Michel Kreutzer. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Autour donc de cet ouvrage singulier qui vient de paraître aux éditions du Pommier, dans lequel l'éthologue que vous êtes, professeur émérite de l'université de Nanterre, où vous avez dirigé le laboratoire d'éthologie, secoue un peu, j'ai envie de dire, le cocotier de toutes nos idées reçues et préconçues sur la folie en particulier et sur les animaux en général. On a quand même très longtemps considéré que la folie était un des tristes privilèges de l'espèce humaine, sauf que Michel Kreutzer, depuis les multiples découvertes ou redécouvertes sur les capacités cognitives, empathiques des animaux, il n'y a plus vraiment de raison de penser qu'ils soient épargnés par les maladies mentales. C'est un peu ça qui vous a poussé à écrire cet ouvrage ?
Oui, parce que j'ai étudié, pas exactement la folie, mais le comportement animal. Et j'ai souvent vu des comportements, disons, excessifs ou au contraire des manques dans certaines situations. Et dans ces cas-là, je me suis demandé si ces animaux ne présentaient pas des formes de pathologie ou de dysfonctionnement qui ressemblaient à ceux des humains ou pas. En plus, j'enseignais les neurosciences et l'éthologie aux étudiants de psychologie. Donc j'étais amené à me poser ces questions. En tout cas, si je ne me les posais pas, mes étudiants me les posaient.
À faire ce genre de parallèle entre donc toutes ces folies. Alors, on va revenir sur le mot folie, mais d'abord, c'est au pluriel. Hein. Ce sont des folies animales au pluriel qui peuvent à la fois être propres à certains individus, à certaines espèces. Les folies animales sont innombrables, un peu comme les folies humaines d'ailleurs.
Oui. Alors, le terme folie, il est polysémique, donc il est appliqué à énormément de comportements, que ce soit chez les animaux ou les humains. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu, ou on a préféré conserver le pluriel. Donc, voilà l'une des raisons principales. D'un autre côté, les folies aussi, parce que chaque discipline, alors on aura peut-être l'occasion d'en parler, chaque discipline voit un peu la folie depuis sa fenêtre, ce qui fait qu'au bout du compte, on a une multitude de conceptions de la folie.
Et puis alors, pour ce qu'on appelle la folie, précisément, on va y revenir, là aussi les frontières comme entre les hommes et les autres animaux sont complexes, parce que qu'est-ce qui est fou, c'est ça aussi que vous remettez en question, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui est à la limite, vous parlez d'excès et de manque, ça serait quand même ça qui pourrait être du vraiment trop ou du vraiment pas assez, c'est ça qui déterminerait la folie,
alors,
les folies.
Alors, on reviendra sur exactement la distinction qu'on peut faire entre folie, psychopathologie, psychiatrie, mais le terme de folie, effectivement, c'est un terme qui de temps en temps pose des questions Et j'ai voulu l'interroger. C'est pour ça qu'au départ, je ne veux pas définir la folie et que j'attends, chemin faisant, d'y voir plus clair pour, à la fin, statuer et prendre une position qui me paraît claire sur ce qu'est la folie, ce qui ne l'est pas.
Autour de la question donc ce qu'on appelle folie, je propose tout de suite tout de même de répondre à la question d'un des plus éminents spécialistes du cerveau humain, le professeur Stanislas Dehaene, que vous connaissez, oui. Du Collège de France. Oui. Il était récemment notre invité pour son ouvrage « Face à face avec son cerveau ». Écoutez sa question, elle est pour vous, Michel Kreutzer.
Bonjour Michel. Effectivement, à propos de ton livre « Folie animale », j'ai envie de poser la question que tout le monde se pose. Je pense qu'on peut vraiment parler de folie s'il n'y a pas, comme je pense il y a chez l'homme, et peut-être uniquement chez l'homme, de représentation mentale, psychologique, de son propre esprit. Autrement dit, est-ce que le terme folie n'est pas un petit peu abusif quand on parle de l'animal ? Est-ce que tu peux clarifier ce point-là ? Merci.
Alors, vous demandez des définitions, on a bien compris que vous ne voulez pas, pour le moment en tout cas, donner, et vous avez probablement raison, de définition de la folie, mais clarifier. Donc
Clarifier est gentil, Stanislas Dehaene, mais clarifier, ça veut dire quand même qu'il trouve que le flou, c'est pas bien et qu'il serait bien de mieux définir ou en tout cas montrer un type d'approche ou faire des hypothèses. Alors, il a raison, chaque discipline, pour travailler, pour faire ses expériences, a besoin d'une définition, de faire ce que j'appelle moi plutôt des hypothèses. Définition, ça voudrait dire que l'on sait déjà, tandis qu'hypothèse, c'est une interrogation. Et puis ensuite, voir de quelle manière on va expérimenter ou bien observer pour travailler sur ce qu'on va appeler la folie.
Parce que ce que dit Stanislas Dehaene, c'est que nous, humains, je ne sais pas ce que vous en pensez, nous sommes capables de symbolisme, de représentation mentale. Et c'est pour ça qu'on parle de folie. Est-ce que...
Oui, alors là, il m'étonne, ouais. Stanislas Dehaene, parce que ça voudrait dire que les humains ont des particularités qui leur permettraient d'avoir des représentations que les animaux ne pourraient pas forcément avoir. Bon, les animaux ont une mémoire, les animaux sont capables de se construire des catégories mentales, et bien sûr, la question posée, c'est l'humain est un animal symbolique, et grâce au langage, il est capable de se construire des représentations, une histoire, des narrations sur son passé, sur son présent, et que voilà, grâce à ça, les représentations pourraient être concrètes beaucoup plus que chez les animaux. Ça revient d'une certaine manière à nier ou à mettre un peu au placard l'éventuelle existence d'un psychisme chez les animaux. On n'est pas dans les têtes des animaux, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe, alors essayons de nous limiter par exemple au comportement, aux capacités cognitives, mais les animaux ont des émotions. Les animaux sont capables de réprimer certaines émotions, et quand on voit dans les zoos les situations dans lesquelles ils sont, on s'aperçoit bien que effectivement ils ont un mal-être. La représentation que peut avoir un animal de ce qui serait bien pour lui. On en a des exemples très faciles à observer. Je veux dire, on se promène dans un champ, on voit des vaches, il fait chaud l'été, elles sont à l'ombre. Elles savent bien que c'est à l'ombre qu'elles sont mieux. Oui, donc, il y a sans doute une représentation des meilleurs endroits possibles. Les oiseaux, ils construisent des nids aux meilleurs endroits, là où les prédateurs ont des difficultés pour les atteindre.
Justement, vous avez beaucoup travaillé aussi sur les oiseaux en tant qu'éthologue. Qu'est-ce que c'est quand un oiseau, on dit, tiens, il est fou celui-là, ou vous diriez, enfin, évidemment, ce terme fou, on a bien compris, il est énorme, il dit plein de choses. Mais ce serait quoi un comportement un peu fou, une folie pour un oiseau?
Alors, c'est pas simplement la folie pour un oiseau, c'est d'une manière générale, je considère, et c'est un peu là, ça, une partie de la conclusion de mon ouvrage, c'est que la folie est consubstantielle à la vie. Vivre de temps en temps d'émotions qui sont en excès, ou bien être dans le manque, avoir un peu de, comme ce qu'on appellerait chez l'humain, de déprime, oui, c'est normal. Les espèces animales, chez la plupart des espèces animales, ceci peut exister. Donc, les oiseaux, oui, m'est arrivé, mon activité professionnelle en tant que chercheur, ça consistait à étudier la communication acoustique chez les oiseaux et notamment le chant. Il y a des oiseaux qui chantaient énormément toute la journée, d'autres qui chantaient très peu. Les rossignols qui chantent, il y a des rossignols qui chantent une grande partie de la nuit, mais il y en a d'autres qui sont des taiseux qui chantent beaucoup moins. Donc la vie des animaux nous met face à des individus qui se comportent en excès et d'autres qui se comportent d'une certaine manière en marque. Ce qui ne veut pas dire forcément que c'est pathologique. C'est pour ça que je dis c'est consubstantiel à la fille d'être trop ou d'être pas assez.
C'est ça, c'est dans le trop ou dans le pas assez qu'on peut mesurer ce qui peut être un peu folie ou un peu différent des autres. Mais vous avez parlé d'individus. Et là encore, les folies animales au pluriel, ça peut être des folies liées au comportement d'une espèce ou d'animaux qui ne se comportent pas comme ils devraient se comporter dans leur espèce. Mais c'est aussi une question individuelle, évidemment.
Oui, alors, on revient là sur un point que vous évoquiez tout à l'heure et je n'y ai pas forcément répondu. C'était finalement, qu'est-ce que le normal, qu'est-ce que la folie? En fait, on s'aperçoit que chez les humains et chez beaucoup d'espèces animales, ce n'est pas à partir des comportements habituels qu'on définit la folie. C'est généralement parce qu'on voit des comportements totalement inhabituels, qui nous paraissent totalement atypiques, que l'on dit le comportement animal normal, c'est un comportement où ceci n'apparaît pas. Voilà, d'une certaine manière.
On définit le dysfonctionnement, la folie, plutôt que la normalité, c'est ça que vous dites.
Oui, la normalité se définit par rapport à ce qui est anormal. Voilà.
D'accord.
Et ça, Canguilhem, Foucault l'ont largement souligné. D'ailleurs, chez l'humain, dans beaucoup de religions où la loi, elle ne dit pas forcément ce qu'il faut faire, mais elle dit vous ne devez pas faire ceci. Si vous faites ceci, vous serez puni. Voilà, c'est ce qui est anormal qui nous permet de dire voilà ce qui est normal.
Et c'est le cas chez les animaux, que l'on considère aussi aujourd'hui, et les éthologues en sont responsables pour le meilleur d'ailleurs, en tant qu'individu aussi. Un animal est un individu. Et la folie peut toucher un individu.
Voilà. Alors, on a l'habitude, effectivement, d'opposer le particulier, le singulier au général. Alors, il n'y a pas de cas général, il n'y a que des individus qui sont particuliers, qui sont singuliers. C'est vrai. Cependant, quand vous connaissez le comportement d'un individu d'une espèce et que vous le comparez à un autre individu d'une espèce, vous voyez des invariants. Et c'est ces invariants qui permettent de dire, à un moment donné, le comportement de cette espèce, c'est plutôt cela. Mais ce comportement général, c'est comme l'individu moyen, ça n'existe pas. Il existe un ensemble de particularités d'individus qui, effectivement, ont tous des singularités. Je me répète un peu, mais c'est cela.
On voit que c'est pas simple, hein. Évidemment, que c'est très complexe et qu'il faut multiplier les regards pour définir ou pas la folie, les folies animales autour de la question « La folie est-elle seulement le propre de l'homme ?» Nouvelle question pour vous, soulevée cette fois-ci par un chimiste, le professeur Marcel Hibert, spécialiste de chimie organique, auteur de « Ocytocine, mon amour » qui s'intéresse aux questions chimiques, hormonales et amoureuses. On l'écoute partager son expérience de la folie animale et il a aussi une question pour vous.
Moi, j'étais confronté à la folie de mon chat. Un jour, mon chat est devenu fou. Il se mettait à se cogner la tête contre les murs, à rater les marches, à manger comme un cochon en en mettant partout. Voilà. Et il avait vraiment un comportement d'ivresse, cette folie. Et donc, je pensais que c'était l'âge, mais c'était vraiment soudain. Et en fait, il s'est trouvé qu'il avait consommé des neurotoxiques et des raticides. Donc, il y a des substances pour tuer les rats qui sont des neurotoxiques. Et ça induit chez lui vraiment ce comportement de folie apparente. Voilà, donc là, c'était complètement, malheureusement, chimique. Ce n'était pas une folie naturelle, mais c'est assez spectaculaire et très déstabilisant. Et sans ça, les vaches folles. Vous voyez le lien, par exemple, on a vu les vaches devenir folles avec le prion. Donc, est-ce que ça aide à comprendre un petit peu mieux certains mécanismes de la folie, peut-être chez les animaux? Voilà, peut-être une approche.
Alors Michel Kreutzer, il y a deux questions en une. J'ai envie de dire, pourquoi vous voulez commencer par le comportement fou de ce chat qui avait absorbé des neurotoxiques?
Oui, mais c'est pas très différent finalement de la question de la vache folle. Ça veut dire qu'il y a un organe qui est le cerveau et que lorsque cet organe dysfonctionne ou on le fait dysfonctionner par des agents psychopharmacologiques, ou bien des virus, ou bien il y a des troubles génétiques de l'anatomie du système nerveux ou de son fonctionnement, ben on voit apparaître des comportements totalement atypiques. Donc oui, on peut faire apparaître des comportements atypiques. Et Je dois dire que dans les années 50, chez l'humain et chez l'animal, il y a eu une grande approche psychopharmacologique en se disant, bon ben, bien sûr, il peut y avoir des virus, bien sûr, il peut y avoir telle ou telle toxine, mais peut-être que, tout simplement, spontanément, il y a des dérégulations qui se font à l'intérieur du système nerveux, dans les réseaux nerveux, des neurotransmetteurs qui sont pas assez libérés ou bien trop, et ça crée au bout du compte, des troubles du comportement que l'on observe, des représentations que l'animal peut avoir de son milieu, et on va essayer d'approcher la folie par la psychopharmacologie. On s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas de bons modèles animaux avec la psychopharmacologie, des folies qui pouvaient être humaines, et il fallait également s'engager dans d'autres voies, même si celles-ci devaient être conservées, puisque beaucoup de symptômes sont actuellement traités par des agents chimiques. Là, on est en dehors la perspective où on regarde l'animal dans sa vie de relation avec son milieu, avec ses congénères. On regarde l'individu comme la source de ses troubles, c'est son fonctionnement nerveux. Et le dysfonctionnement d'un fonctionnement, de son fonctionnement
nerveux. Mais on peut aussi regarder, vous le dites bien, l'animal par rapport à son fonctionnement normal, et vous mettez en avant, quand on dit qu'un animal est fou, ça dépend de qui on parle et quelle est la référence. Parce que vous dites vous-même que, par exemple, l'infanticide chez les animaux ou chez les lions, bah, nous, humains, on va dire que c'est une folie de tuer ses enfants, et on aura raison. Mais si on est un lion, c'est peut-être pas une folie du tout. Donc il faut aussi savoir d'où on se place pour parler de folie chez l'autre.
Oui, les animaux en nature présentent continuellement des comportements excessifs. Alors, bien sûr, il y a les infanticides, il y a des meurtres. Il y a quelque chose qui n'est pas documenté, je le dis au passage, chez l'animal, c'est le cas des féminicides. Ça, c'est quelque chose que l'on très peu documenté, on connaît très peu de cas.
Il y aurait lieu de creuser,
oui. De s'interroger sur ce point. Les animaux en nature, continuellement, sont dans des excès de comportement et qui nous posent problème quand on les regarde. Donc, beaucoup d'auteurs se sont dit, ben voilà, quand on a des serial killers chez les humains, ben regardez les lions, mais ce qu'il y a, c'est tous les mâles sont des serial killers, et au sein d'une espèce, tous les mâles seraient fous, qui vivent en nature. Bon, et quand l'infanticide est pratiqué systématiquement chez une espèce, non, ils sont dans leurs modes habituels de vie, et pour vivre, survivre, eh bien, ils font appel à des comportements qui, nous paraissent répréhensibles.
C'est ça. Hein.
C'est pas la même chose quand les mêmes espèces sont dans la sphère de l'humain et qu'ils montrent des comportements qui, là, sont induits par les conditions dans lesquelles on les fait vivre. Pour moi, dans ces cas-là, ces folies sont des folies qui sont des pathologies et on a plus affaire à des pathologies comportementales. Et on se rapproche à ce moment-là des questions qui se posent en psychiatrie. Juste un mot, vous disiez tout à l'heure que j'étais un pionnier de la psychiatrie. Non, il y en a eu bien d'autres avant moi qui se sont intéressés à la psychiatrie animale, les vétérinaires. Mais l'aborder d'une multitude de façons et essayer de différencier la folie des pathologies mentales et comportementales, oui, ça c'est un point peut-être qui est
et d'ailleurs, vous faites dans cet ouvrage, Folie animale au pluriel, une grande différence entre, justement, et vous le disiez à l'instant, la folie de ces animaux au contact des humains, que ce soit les animaux domestiques qui présentent certaines pathologies ou les animaux dans les zoos qui sont enfermés et qui, là, développent véritablement ce qu'on peut appeler des folies ou des pathologies.
Oui. La vie en nature, c'est pas simple pour les animaux. C'est pas simple et ils y laissent, j'ai envie de dire, des plumes si c'est des oiseaux, mais du poil si c'est des mammifères. Mais vivre dans la sphère de l'humain, c'est pas simple non plus. Alors, la domestication, peut-être que les animaux en ont retiré des bénéfices, on les protégeait des prédateurs, ils avaient de la nourriture, etc. Mais d'un autre côté, ils ont payé un lourd tribut à la domestication, que ce soit les chiens, les chats. Et devenir un animal de loisir, aujourd'hui, on considère que c'est pas mal pour l'animal, mais d'un autre côté, on s'aperçoit que ça devient des doudous, des objets transitionnels, comme on dit en psychologie, pour les humains. On les éloigne de leurs conditions qui étaient la condition naturelle, qui ne sont pas forcément des conditions faciles à vivre, mais ce que leur offrent les humains n'est pas toujours la meilleure situation également pour eux. Alors, bien sûr, on ne s'en rend pas bien compte pour les animaux de loisirs.
Mais on s'en rend moins compte. Les zoos, évidemment, on s'en rend compte de la souffrance animale.
On s'en rend, On s'en rend beaucoup plus compte. Oui.
Mais pour les animaux domestiques, c'est pas tellement bien. Alors, on a une question d'un de nos auditeurs au Burkina, Youssouf Joseph Ouattara, qui dit « Je sais que les animaux peuvent devenir fous » et il se demande comment ils sont traités par les autres animaux dans cette situation-là. Est-ce que vous en savez un peu quelque chose, Michel Kreutzer ?
Alors, quand vous regardez les grandes pathologies mentales qui existent chez les humains, vous avez un certain nombre de pathologies, un cas sur 100, sur 1000, elles sont assez rares. Ces grandes pathologies. Il faudrait observer un très grand nombre d'animaux in situ pour éventuellement les voir apparaître et en voir les symptômes. Ce qui est sûr, c'est qu'en milieu animal, un individu qui pose des problèmes à ses congénères, il va avoir des problèmes avec eux dans la vie de relation. Je veux dire, il va se faire agresser par les autres et peut-être parfois qu'il doit s'exclure du groupe ou bien il ne trouve pas de partenaire pour se reproduire. Donc ils sont pas faciles à repérer en nature, parce que il faut rester et les observer longtemps. Mais les congénères, un individu qui ne réagit pas de la manière habituelle,
ils risquent d'avoir un peu des problèmes quand même.
Exactement.
Autour de la question de ces folies animales, au pluriel, pour reprendre le titre de votre ouvrage aux éditions du Pommier, Michel Kreutzer, je vous propose une chanson qui illustre là aussi que la folie n'est pas que le propre de l'homme, quoique la vache enragée interprétée par les ogres de Barbac sur RFI. Oui, ça promet, la vache enragée.
Je crois que j'aurais préféré croiser 100 000 chats noirs lorsque je l'ai rencontré, qui sortait d'un abreuvoir. Je cigalais sans me soucier de la saison hivernale. Quand paf, me voilà nez à nez, comme ça, avec l'animal. Elle est là,
où ça,
en face de moi,
où ça,
je suis là,
où ça,
en face d'elle. Elle n'a pas peur de moi,
et toi,
et moi, je n'ai pas peur d'elle.
Et nous dansons le tango, bien serré, l'un contre l'autre. Je lui gratouille le dos, elle me chatouille les côtes. Je suis le cavalier de la vache enragée.
Le blabla est entamé, la bestiole prend les devants.
Hé, il paraît que vous chantez. Eh bien, dansez maintenant.
Elle me fait des croche-pieds, moi je lui fais des croche-pattes.
Son coup de boule n'est pas loin de mon nez, je lui épluche une patate.
Elle est là,
où ça,
en face de moi,
où ça,
je suis là,
où ça,
en face d'elle.
Elle n'a pas peur de moi,
et toi,
et moi, je n'ai pas peur d'elle.
Pas peur d'elle et non, la vache enragée des ogres de Barbac sur RFI. Autour de la question, la folie est-elle le propre de l'homme, en compagnie de notre invité, l'éthologue Michel Kreutzer, qui vient de publier Folies animales, au pluriel, aux éditions du Pommier, et qui nous ouvre l'esprit, j'ai envie de dire, à d'autres folies que les nôtres, à cette discipline de la zoopsychiatrie, sur laquelle vous interroge tout de suite un autre spécialiste du cerveau humain et de ses dysfonctionnements, petits ou grands, le neuroscientifique Laurent Vercueil, qui était récemment notre invité.
Je suis assez convaincu que les animaux sont dotés de personnalité, donc d'individualité. Est-ce que cela signifie que dans certains cas, il pourrait y avoir des troubles de la personnalité animale ?
Des troubles de la personnalité animale, Michel Kreutzer.
Alors, des troubles de la personnalité animale, oui, d'abord, il y a ceux que l'on peut induire. Et par la psychopharmacologie, en faisant des sélections génétiques d'individus, en les mettant dans des conditions particulières et en regardant comment ensuite ils développent des difficultés dans leur relation avec leurs congénères. Oui, Il y a des individus qui présenteront plus facilement que d'autres ces troubles. Toutes les expériences qui ont été faites aussi en induisant des addictions chez les animaux. Mmh. Il y a des individus qui sont plus faciles, chez lesquels il est plus facile d'induire des addictions. On retombe sur le problème que vous souleviez tout à l'heure, c'est-à-dire les singularités. Ils sont tous particuliers, ces individus, et certains sont plus prédisposés que d'autres, dans certaines situations, à développer...
On a ainsi pu rendre alcoolique ou drogué des rats, des souris et d'autres.
Voilà, absolument. Alors après, outre ces situations qui sont les situations que l'on peut rencontrer en laboratoire et que l'humain peut induire, il y a les situations en nature. Alors, dans un ouvrage de mon collègue généticien Pierre Houbertou, il montre qu'il y a des études qui ont été faites sur des chimpanzés en Afrique, et que certains auteurs trouvent que des individus, quand on fait une échelle de personnalité qui était utilisée habituellement pour l'humain, cette échelle de personnalité permet de constater que certains individus présentent des symptômes qui sont proches des symptômes autistiques que l'on connaît chez l'humain.
Ah oui.
Alors, voilà. Alors, ce serait très intéressant. On est dans une période actuellement où on cherche à beaucoup hominiser les animaux. Mmh. Les animaux ont des protocultures, des protolangages, etc.
On découvre des capacités qui compensaient propre à l'humain chez les autres animaux.
Voilà. Et dans cet ouvrage, Houbertou et d'autres s'interrogent sur effectivement la propension qu'ont certaines espèces animales à avoir des configurations génétiques qui seraient proches de celles qui chez l'humain sont susceptibles de permettre de développer telle ou telle maladie mentale et tel ou tel type de
symptômes. Parce que les animaux, en l'occurrence les grands singes, sont des animaux sociaux comme nous et qu'évidemment, ces questions de folie, de troubles dans les relations, se jouent dans les relations précisément, dans les relations à l'autre.
Oui, et plus on a affaire à des espèces qui ont une vie complexe ou qui ont un cerveau complexe, comme dirait Chapoutier, eh bien plus à ce moment-là, il y a des risques de dysfonctionnement. C'est-à-dire, si vous prenez chez les humains un ustensile comme la brouette, ça ne dysfonctionne jamais. Un vélo, un peu plus, la chaîne saute, une voiture, un peu plus, mais une fusée, là, il y a de grands risques de dysfonctionnement dans les comptes à rebours.
C'est-à-dire, du coup, chez les animaux, évidemment, un ver de terre qui dysfonctionne, on s'en rend pas trop compte.
Oui, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Oui.
Voilà, mais que ce soit un oiseau. Type corbeau corvidé ou un chimpanzé ou un éléphant comme celui qui est sur la couverture de votre ouvrage et qui est c'est magnifique hein, c'est un dessin surréaliste, il est complètement sur sa trompe et debout sur sa trompe. Un éléphant par exemple, ça se verrait un dysfonctionnement, une folie entre guillemets.
Ah ben, ça se voit à cause des symptômes qu'ils présentent. Alors, quand ils sont effectivement privés de leur vie habituelle en nature, maintenant, il ne faut pas confondre ces dysfonctionnements avec, quand on regarde ces animaux en nature, avec les agressions qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de leurs congénères, parce qu'ils vivent dans des systèmes hiérarchisés, les relations que peuvent avoir les mères avec leurs petits, si leurs petits, ne se comportent pas comme habituellement, elles peuvent aller les rechercher, etc., et les réprimander d'une certaine manière. Donc, les animaux peuvent présenter des dysfonctionnements qui ressemblent à ceux des humains, et dans ces cas-là, on voit les congénères réagir.
Et justement, finalement, ça ne cesse de nous renvoyer comme une sorte de miroir, finalement, à la question de cette zoopsychiatrie, à la question de la folie et des folies humaines et animales. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point il est assez compliqué de dire « là, ça devient fou », même si on voit bien quand c'est dans les extrêmes que ça devient fou. Donc il y a des questions de continuité, de discontinuité, mais pas seulement ça, il y a aussi d'autres manières. Ça nous renvoie finalement à nous-mêmes à nos propres folies.
Alors, la zoopsychiatrie... je la distingue d'une certaine manière de ce que serait la folie que présentent les animaux en nature. On ne va pas aller soigner les animaux en nature. Bon, on ne va pas aller les soigner. La zoopsychiatrie, elle est à considérer de deux points de vue. D'abord, dans la perspective de la continuité-discontinuité, en quoi les troubles que peuvent présenter les animaux ressemblent à ceux des humains, aux troubles des humains, en quoi les humains pourraient construire des modèles animaux de leurs propres troubles. Mmh. Alors, sur cet axe qui est celui de la continuité-discontinuité, on peut répondre oui, ça peut être utile, ou non, ça peut être utile, mais on est dans cet axe de continuité-discontinuité. On voit de l'anxiété, des peurs, des fuites, etc. On voit des comportements excessifs chez les animaux, que l'on connaît chez plusieurs espèces animales et également chez les humains. Maintenant, il y a une autre façon de considérer les choses, c'est que chaque espèce est particulière, chaque espèce vit dans son propre monde, chaque espèce a donc ses propres manières de dysfonctionner, donc, et qui ne seraient pas forcément toujours comparables entre elles. Donc, à cette continuité-discontinuité s'oppose d'une certaine manière celle des particularités de chaque espèce qui ne sont pas forcément à voir dans le cadre d'une continuité-discontinuité des particularités de chaque espèce. Vous insistiez tout à l'heure sur les particularités de chaque individu. Dans une zoopsychiatrie, il y a à considérer aussi les particularités de chaque espèce. Ce qui fait qu'on a une psychiatrie qui pourrait être une psychiatrie générale à construire, qui pourrait être valide partiellement en tout cas pour les animaux et les humains, et une psychiatrie comparée qui comparerait les espèces entre elles et qui verrait en quoi chaque espèce présente des troubles qui lui sont, ou des symptômes qui lui sont particuliers et qu'on ne retrouve pas chez une autre.
Sacré chantier que vous ouvrez, que vous proposez hein, autour de la question des folies animales mais aussi humaines, on l'a bien compris. Les regards changent un peu grâce à vous et quand on lit votre ouvrage, ça change un peu. Les regards changent sur l'art et les folies mais aussi sur les animaux. Vous m'avez d'ailleurs soufflé à l'oreille Michel Crotty, une ancienne pratique en vogue au XVIIIe siècle, c'est celle de la serinette, apprendre, ou plutôt forcer les oiseaux, les serins notamment, à apprendre non pas leur propre chant d'amour ou de communication, mais les nôtres, humains, forcément plus jolis. Dans ce cas, est-ce le serin que l'on rend fou ou est-ce que c'est l'humain qui l'est ? À vous de décider. À l'écoute du flûtiste Hugo Rennes dans cette vidéo de la Philharmonie de Paris qui revenait sur cette pratique un peu folle d'oiseleur à partir d'un petit flageolet.
L'instrument, c'est le petit flageolet et qu'on apprenait des morceaux aux oiseaux à l'aide de cet instrument. Alors c'est un instrument très très confidentiel, très doux. Et comment ça se passait ? Eh bien, on s'approchait de la cage, c'est bien sûr pour les oiseaux domestiques. L'oiseleur s'approchait de la cage de l'oiseau et peut-être même mettez une sorte de voile noire sur la cage pour que uniquement le louis de l'oiseau soit en présence et en éveil. Et on jouait des petits morceaux. Il y avait des méthodes à l'époque pour plein d'oiseaux différents. Il y a notamment la méthode qui s'appelle Birds Fancy's Delight, les délices de l'oiseleur, qui enseigne à différents oiseaux. Il y a beaucoup pour les canaris, pour les bouvreuils. Alors la louette des bois, ça fait ça, le petit morceau. Bien sûr, voilà le morceau dans son intégralité. Et qu'est-ce qui se passait ? Ben, on approchait de la cage et on jouait le premier fragment. Vous voyez, c'est très simple. On répète une note. Tam, pa, 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 pam. Aujourd'hui, il y a encore des concours de chants d'oiseaux. C'est-à-dire les gens amènent leur canari qui chante très bien, mais il n'est pas éduqué pour chanter un petit morceau de Handel ou chanter un petit morceau de Mozart, je ne sais pas, un petit air d'opéra. C'était ça qu'on apprenait aux oiseaux. Hein. C'était vraiment des airs connus de l'époque.
De quoi tout de même les rendre un petit peu fous, les oiseaux, enfin les empêcher. Et vous dites, Michel Crotter, que cette pratique, finalement, par rapport aux oiseaux, elle continue aujourd'hui, mais d'une autre manière. On ne les force plus à oublier leur propre chant pour apprendre le nôtre.
Alors, il y a toujours des concours de chants d'oiseaux, pas simplement en Europe avec les canaris, mais également en Asie, en Amérique latine, des oiseaux autochtones que les éleveurs ont capturés en nature et puis ils leur font siffloter des chants qui leur apprennent, mais des chants de leur espèce. Ce qui est particulier en Europe au XVIIIe siècle, c'est qu'on contraint ces oiseaux à apprendre des chants qui ne sont pas des chants de leur espèce, mais des mélodies humaines. Oui. Et pour cela, notre confrère là explique bien qu'il fallait les placer sous un voile linoir. Pourquoi ? Parce que la pénombre entraîne une baisse des niveaux hormonaux chez les oiseaux et entraîne une plus longue période de plasticité cérébrale durant laquelle ils peuvent apprendre. Donc on prolongeait la période durant laquelle ils devaient apprendre. Mais il fallait aussi les placer en isolement non seulement acoustique, mais de leurs congénères, parce que s'ils entendaient des chants de leurs congénères, c'est ceux-là qu'ils préféraient.
Eh ben oui.
Donc les humains ont expliqué qu'ils faisaient ça et que c'était une chance pour les oiseaux. On leur apprenait des mélodies qui étaient bien plus belles sans doute que leurs chants naturels et qu'ils devaient être contents de chanter des mélodies humaines qui étaient bien plus belles. Quand on voit que ces oiseaux spontanément préféraient les chants de leur espèce, on peut en douter. Et les conditions même dans lesquelles il fallait les placer étaient extrêmement, disons, dures et contraignantes.
Oui. Finalement, on peut se dire là-dedans, c'est pas ils sont fous ces oiseaux ou folle la guêpe, c'est ils sont fous ces humains.
Les humains considéraient que il n'y a pas mieux qu'un humain.
Ouais,
et
ça.
Faire ce que fait un humain, c'est bien mieux que ce que fait un animal habituellement. Et bon, voilà, il y a les singes aussi, on les habille, on les contraint à mimer les humains. L'imitation, imiter l'humain, eh bien, c'est gagner en galon plutôt que de rester un sauvage qui chante ses chants habituels.
Heureusement, on commence à en revenir et à la lecture de votre ouvrage « Folies animales », on en revient, notamment dans votre épilogue, j'ai envie de dire, où vous nous dites finalement par rapport à la folie animale et humaine que on peut tous plus ou moins laisser cours à sa folie tant qu'on n'est finalement pas trop en société, mais qu'en société, on a besoin de règles, on a besoin de rituels pour vivre ensemble et être à distance. Et que finalement, il y a ça aussi à prendre en compte dans ces folies animales, à gérer ou pas d'ailleurs, à étudier.
Oui, la notion de folie, elle est utile aux humains parce que c'est à partir de ce qu'ils vont considérer comme fou qu'ils vont définir ce qui est normal de faire. Or, la vie, en groupe humain, est une vie de normes et d'identité. Et on explique aux individus ce qu'ils doivent faire pour pouvoir se conduire normalement dans le respect de la vie sociale. On s'aperçoit que bien souvent, ils ne le font pas. Mais à ce moment-là, on trouve qu'ils sont mal éduqués. L'éducation est une contrainte. Bon, moi, je suis éthologue, je ne suis pas psychanalyste, mais Freud avait bien dit que, finalement, une partie des pathologies que présentaient les individus venaient de la civilisation et des contraintes qu'elle leur imposait. Et les animaux, pour lui, étaient bien plus heureux parce qu'ils pouvaient vivre selon leur instinct habituel. Ça se rapproche un peu de ce que je dis quand je dis que les espèces en nature, eh bien, on n'a pas à les juger, elles vivent des folies naturelles, et que ce qui est pathologique, c'est ce qui induit des contraintes, c'est ce qui provoque des comportements et des symptômes à cause des contraintes que cela provoque dans la vie de relation des individus.
Au fond, l'éthologue que vous êtes préférait ne pas étudier du tout les folies animales, mais c'est un point d'entrée extraordinaire, surtout quand on le regarde de tous les côtés, pour ce qui nous renvoie.
Oui, moi, ce que j'aime bien dans la folie, c'est que c'est un terme polysémique et qu'en plus de ça, il y a une multitude de disciplines qui s'y intéressent et qui jettent un regard, chacune estimant que peut-être qu'elle détient la clé pour expliquer les folies. Par mon avis, aucune ne détient la clé parce que tous ces regards sont légitimes et loin de rendre sceptique, c'est-à-dire ce que faisaient les anciens, c'est-à-dire « Oh ben, puisqu'il y a ces différents points de vue et discours, c'est indécidable. » Non, de chaque point de vue, on peut décider quelque chose, mais il faut savoir aussi que chacun de ces points de vue, également, a des limites.
Et finalement, vous nous apprenez le vivre ensemble, le bon vivre ensemble, en fait. Entre humains et entre animaux, non? On peut conclure là-dessus non, c'est trop bénévole pour vous.
Ce qui serait déjà bien, c'est le bon vivre ensemble entre les différentes disciplines scientifiques et les chercheurs. À ce moment-là, effectivement, peut-être qu'on arriverait à plus respecter le point de vue de l'autre et l'approche qu'il a de la folie.
Eh bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là-dessus, Michel Kreutzer. Merci de nous avoir guidés donc, sur ce chemin de crête, on l'a compris, autour des folies animales qui nous renvoient évidemment aux nôtres, donc folies animales au pluriel. C'est le titre de votre ouvrage à lire absolument, paru aux éditions du Pommier. On va se quitter en musique, si vous le voulez bien, Michel Kreutzer, car il va être l'heure de s'installer sous le ciel d'Afrique pour notre éphéméride mensuelle avec le planétologue Sylvain Boulet. Et nous allons annoncer dans quelques instants le nouveau gagnant de la lunette astronomique offerte par SSVI et RFI en partenariat avec nos amis astrophysiciens et astronomes de la revue web L'Astronomie Afrique. Alors après Christian Gbaba au Togo, Serge Bounza au Gabon, Miguel Capitao en République du Congo, Prudence Aivi au Bénin et Diomé Kassea en RDC, qui sera notre nouveau lauréat, et bien vous le saurez, chers amis auditeurs, juste après avoir écouté un musicien qui nous met un peu sur la piste aux étoiles en Guinée-Conakry, tiens donc, c'est Mokouyaté avec son dernier projet Guinea Music All Stars, ou comment remettre sur le devant de la scène internationale la musique guinéenne des anciens et des modernes. On écoute Mokouyaté et Sekouba Bambino dans ce morceau grand classique réarrangé de l'âge d'or de l'orchestre de Conakry, Sewa sur RFI. Gina ma borera ise wa riborera na nana ya bo La Guinée una ma semana Miriam
Question. Ciel d'Afrique sur RFI. En partenariat avec l'Astronomie Afrique, Caroline Lachowski.
Cher Sylvain Boulet, et si on commençait par féliciter notre nouveau gagnant de la lunette astronomique, offerte donc par l'Astronomie Afrique, SSVI et RFI. Il habite à Conakry, en Guinée. Il est instituteur, je crois bien qu'il nous écoute avec toute sa classe. On vous salue, chers élèves et chers maîtres, Tolno Jacob. Et oui, c'est ça, hein, Sylvain Boulet. Tolno Jacob, instituteur à Conakry, qui remporte la lunette astronomique de cet automne. Bravo, bravo, Tolno, vous le méritez bien, hein, Sylvain.
Oui, il le mérite bien et on souhaite bonne chance à Tolno Jacob. Son courrier a été très touchant. Et le petit groupe d'astronomes qu'il a formé, de tout petits, de moyenne section et de CP-CE1, en fait, qu'il a rassemblé, a réalisé un magnifique tableau des planètes.
Super, bravo, bravo Tolno et bravo à tous ses élèves. Alors, qu'est-ce que pourront observer Tolno Jacob et sa classe et ses autres élèves, mais aussi tous nos autres lauréats de lunettes astronomiques que l'on salue sur le continent, et bien sûr tous les astronomes amateurs, que pourra-t-on observer sous le ciel d'Afrique entre ce 13 octobre jusqu'au 15 novembre, Sylvain ?
Alors, Jupiter et Saturne, en début de nuit, seront toujours de la partie très haute sur l'horizon. Il faudra donc lever la tête. Hein. Pour les trouver facilement, en fait, il suffit de les regarder lorsqu'elles sont proches de la Lune. Notre satellite naturel a notamment rendez-vous le soir avec Jupiter le 15 octobre et le 11 novembre, et avec Saturne le 10 novembre. Vous pouvez aussi profiter de ce mois pour regarder Vénus au coucher du soleil à l'horizon ouest et à noter un joli rapprochement de Vénus avec l'étoile Antarès de la constellation du Scorpion le 16 octobre, avec la Lune le 8 novembre et avec la nébuleuse de la Lagune M8 dans la constellation du Sagittaire le 6 novembre. Et avec une petite paire de jumelles, vous verrez donc l'étoile du Berger avec cette belle nébuleuse qui, je le rappelle, est une vraie pouponnière d'étoiles. Et puis, petit challenge du mois, la planète Mercure qui se rapprochera à l'est d'un joli croissant lunaire et de l'étoile Spica de la Vierge le 3 novembre au petit matin, juste avant le lever du soleil.
Ça, c'est pour le petit challenge du mois. Mercure le 3 novembre, Vénus, Jupiter et Saturne le 10 novembre, Jupiter le 11 novembre. Du côté des constellations maintenant, Sylvain, lesquelles seront bien visibles d'ici au 15 novembre ?
Alors, au mois d'octobre et novembre, les constellations de Pégase, Andromède, du Verseau et du Poisson seront hautes sur l'horizon. Et puis, plus vous serez au sud en latitude, plus les constellations de l'hémisphère sud seront observables. À vous alors de découvrir les constellations de l'Iridan, du Fourneau, du Poisson austral ou encore du Phénix. Alors personnellement, une de mes constellations préférées, c'est la constellation d'Andromède. En fait, compter la légende d'Andromède de la mythologie grecque, c'est un peu vagabonder dans une vaste contrée du ciel étoilé. Alors il faut le savoir, en fait, Andromède, c'est la fille du roi d'Éthiopie. Céphée et de la reine Cassiopée. Sa mère, en fait, prétendait qu'elle était plus belle que les Néréides, et pour venger les nymphes marines, Poséidon envoie le monstre Cétus, la baleine, ravager les côtes du royaume. Et Céphée est contraint de livrer alors sa fille en sacrifice. Elle est enchaînée sur un rocher près du rivage, mais Persée, chevauchant Pégase, vole à son secours et pétrifie le monstre avec la tête de la gorgone Méduse.
Vous nous faites rêver, Sylvain, avec la belle Andromède.
En fait, elle est très facile à observer, cette constellation proche du zénith en ce moment. La belle Andromède côtoie dans le ciel de novembre son père, sa mère et le demi-dieu Persée. Cette belle constellation est remarquable également par la présence de la grande galaxie d'Andromède. De magnitude 3,4, la galaxie d'Andromède est l'objet céleste le plus lointain discernable à l'œil nu. Elle est à 2,2 millions d'années-lumière. Vue de trois quarts, cette galaxie spirale est très étendue sur la voûte céleste, son diamètre apparent couvrant 6 fois celui de la pleine lune. Elle est donc facilement repérable aux jumelles.
La galaxie d'Andromède aux jumelles, est-ce qu'il y aura d'autres phénomènes astronomiques à ne pas rater, Sylvain ?
Oui, alors Caroline, le 21 octobre aura lieu le maximum des étoiles filantes, des Orionides. La Terre croisera alors un maximum de poussière issue de la célèbre comète de Halley. Et pour voir ces belles étoiles filantes, il vous faudra attendre la fin de soirée pour que la constellation d'Orion, d'où semblent venir les étoiles filantes, soit levée. Les Orionides font partie des plus beaux essaims de l'année, avec des étoiles filantes très rapides, allant à une vitesse de 66 km par seconde. On pourra compter une bonne dizaine de météores par heure dans le ciel. Malheureusement, en 2021, la Lune sera présente lors du pic d'activité, ce qui risque de perturber un petit peu leur visibilité.
On essaiera de les voir quand même. Merci Sylvain Boulet, je vous laisse filer pour partir au Sénégal. Vous participez à la troisième campagne d'observation confiée par la NASA à Maram Kéré, que l'on salue, et à son association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal. Bonne observation donc, bonne occultation, et on se retrouve le mois prochain vers le 15 novembre. Sylvain ?
Oui Caroline, et puis je vous rappelle qu'une nouvelle lunette astronomique est de nouveau mise en jeu grâce à nos partenaires SSVI et RFI. Pour participer, c'est très simple, il suffit de nous envoyer sur la page Facebook vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit. Le gagnant sera annoncé le 15 janvier.
Et on en profite pour féliciter de tout cœur et à nouveau Tolno Jacob, notre lauréat, le dernier de 2021 à Conakry, de cette lunette astronomique avec qui nous serons bientôt en contact. À bientôt Sylvain.
À bientôt et puis bon su à tous. N'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran, il suffit de lever les yeux.
La question, c'est presque fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast et à suivre bien sûr notre éphéméride Ciel d'Afrique environ tous les 15 du mois dans Autour de la question et disponible bien sûr ensuite en podcast audio et vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Et puis chers amis auditeurs qui êtes du côté de Dakar au Sénégal, ne manquez pas le rendez-vous sous les étoiles dans la nuit de ce samedi 16 octobre, place du souvenir à Dakar proposée par Maram Kéré et son association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal, avec tous les astronomes dont Sylvain Boulet qu'on vient d'entendre, participant à la mission d'occultation réalisée au Sénégal pour la NASA. Vous pourrez observer ce samedi à Dakar les étoiles, la Lune, les planètes au télescope et bien sûr aussi sur écran géant ensemble assister au lancement de la sonde Lucy de la NASA. Joli programme à Dakar sous les étoiles, ce sera samedi 16. En attendant, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, Caroline Echowski au micro, nous vous souhaitons des rêves astronomiques la semaine prochaine. C'est Chantal Leroux qui me remplacera derrière ce micro. Merci pour votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, à l'écoute de RFI et au son de la cora de Balaké Sissoko. C'est bientôt l'heure de retrouver les informations.